Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, Midia, Bidjan, Treasure and Jamina, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes en Afrique. Au Tchad, enlèvement de 3 Tchadiens, le médecin-chef de l'hôpital de Bagassoula, un infirmier et leur chauffeur dans la région du lac Tchad, dans l'ouest du pays, par des éléments du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les autorités civiles et militaires. Le rapt mercredi est le premier visant du personnel médical dans cette région où Boko Haram multiplie les attaques contre des villages, kidnappant généralement des femmes. Le groupe djihadiste a des camps d'entraînement dans plusieurs des innombrables îles du lac Tchad, bordées également par le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Selon le gouverneur de la province tchadienne du lac, Nouki Chafardine, les ravisseurs sont partis avec leurs captifs sur le lac Tchad à bord d'une pirogue motorisée. Un enlèvement qui s'est produit entre deux garnisons militaires et qui démontre le degré d'infiltration de Boko Haram dans la région, a déclaré un élu local à l'AFP sous couvert d'anonymat. Début septembre, Boko Haram avait tué 7 personnes en une semaine, 4 civils et 3 militaires dans cette région. En République démocratique du Congo, les violations des droits fondamentaux ont augmenté de 10% en septembre, selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Kinshasa. Cet organisme onusien dit avoir documenté 77 exécutions extrajudiciaires, dont au moins 29 commises par des agents de l'État. Parmi les victimes, 6 femmes et 3 enfants. Pour des explications, Eddie Sango a joint le nouveau vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, Paul Nsapu.
À travers cette vice-présidence, je mettrai le focus sur la RDC pour lutter contre les violations, les crimes et violences, par exemple, perpétrées sur les femmes et les populations civiles en général.
Le Bureau de droits de l'homme des Nations Unies a publié un rapport dans lequel il fait état de l'augmentation de 10% des crimes et violations des droits de l'homme au mois de septembre passé. Plus de 500 crimes qui ne sont pas commis seulement par les milices et autres groupes armés, mais aussi par ceux qui sont chargés d'ordre de l'État. Qu'est-ce que vous en dites? Et d'ailleurs, chaque jour, des gens meurent à Kinshasa, même la capitale, par des balles de policiers.
Quand vous prenez, par exemple, les parties, les territoires de l'Est, etc., cela a augmenté le banditisme. Nous disons que la situation a sensiblement diminué depuis l'élection de M. Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Mais nous attendons plus que ça. Nous attendons surtout les réformes qui s'imposent dans le domaine sécuritaire tels que les institutions, l'armée, la police, y compris aussi la justice. Voilà pourquoi nous exhortons les institutions de vite opérer toutes ces réformes pour assainir l'environnement et l'espace sécuritaire et même l'espace démocratique dans ce pays, puisque les mêmes personnes qui géraient l'armée sont encore là. Il faudrait absolument que les réformes interviennent pour changer les fonctionnaires ou les responsables de ces services importants qui peuvent contribuer à la protection des personnes et de leurs biens.
Serait-ce de cela que vous pourriez parler avec le président de la République puisqu'il vient à Paris, d'après ce que nous avons appris, du 13 au 14 novembre?
Nous allons solliciter une audience avec lui dans le cadre du suivi et de la promotion de notre feuille de route contenant 48 recommandations regroupées en 5 priorité à même de contribuer à la promotion et à la protection, j'ai dit encore, des droits de l'homme à RDC. Nous allons parler aussi avec lui d'autres problèmes liés par exemple au processus de mise en place de certaines structures importantes telles que la commission vérité, justice et réconciliation, des facilitations de retour des exilés et des réfugiés politiques.
Paul Nsapu, nouveau vice-président de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, politique au Niger, le pouvoir et l'opposition vont bientôt entamer un dialogue en vue d'apaiser le climat politique tendu à un an de la présidentielle de décembre 2020. C'est ce qu'a annoncé mercredi soir le Premier ministre Brigui Raffini. Depuis 2017, l'opposition refuse de siéger à la Commission électorale nationale et conteste le nouveau code électoral élaboré, selon les opposants, sur une base non consensuelle et sans leur participation. Plusieurs tentatives de révision consensuelle par l'opposition et le pouvoir de ce code adopté en juin par le Parlement ont échoué depuis. Politique en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, a protesté mercredi contre ce qu'il a appelé la honteuse immixtion du gouvernement ivoirien dans la procédure à la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, contre M. Gbagbo. Les précisions avec Bagasikoura.
C'est une honteuse immixtion du gouvernement ivoirien dans la procédure, a affirmé Assoua Adou, secrétaire général du FPI, au nom de son parti et de la coalition d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Par ses agissements, le RDR et le président Alassane Ouattara viennent de faire tomber le masque derrière lequel ils n'ont eu cesse de manipuler la procédure. Le procès n'est rien d'autre qu'une cabale politique pour écarter un adversaire à un an de la prochaine élection présidentielle, a-t-il assuré au cours d'une conférence de presse. Par ailleurs, Assoua Adou a confirmé que la justice ivoirienne a maintenu mardi la condamnation à 20 ans de prison de Laurent Gbagbo dans l'attente de la décision de la CPI après l'appel de la procureure. Fatou Ben Souda, M. Gbagbo réside à Bruxelles. Ses avocats ont déposé une requête pour demander sa libération totale. L'État de Côte d'Ivoire a déposé le 25 octobre une demande auprès de la CPI pour s'opposer à la libération sans condition de Laurent Gbagbo, acquitté en première instance.
Afrique de l'Ouest toujours, le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, a essuyé mercredi de nouveaux désaveux de la communauté internationale pour avoir démis le gouvernement censé préparer la présidentielle du 24 novembre. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'ONU et l'Union africaine ont affirmé leur attachement au processus fixé en juin par la CDAO pour mettre fin à des mois de crise dans ce pays. L'Union africaine a apporté son soutien total à la position exprimée mardi par la CDAO qui avait déclaré illégal le décret mettant fin au gouvernement d'Aristide Gomes. La CDAO avait chargé le gouvernement dirigé par Aristide Gomes de préparer la présidentielle. C'est ce gouvernement que le président a congédié lundi soir. Le président José Mario Vaz a nommé Faustino Imbali nouveau chef de gouvernement, mais M. Gomes refuse de se soumettre. Le pays se retrouve de fait avec deux premiers ministre. Le mandat de M. Vaz a lui-même expiré en juin, mais la CDAO a accepté qu'il reste à son poste jusqu'à la présidentielle du 24 novembre. La campagne doit s'ouvrir officiellement samedi. Le président Vaz a assuré mardi que la présidentielle aurait bien lieu le 24 novembre.
La lutte contre la dissémination des fake news, les nouvelles sans fondement en Afrique. Facebook a démantelé une opération de désinformation dans plusieurs pays africains, notamment la RDC, la RCA, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, menée à partir de la Russie par le réseau d'un proche du président russe Vladimir Poutine. Plus de détails avec Arzouma Compaoré.
Les comptes, pages et groupes concernés, présents sur Facebook mais aussi sur Instagram, étaient liés à des entités associées à un proche du président russe. Il avait déjà été accusé d'avoir animé la campagne contre Hillary Clinton pendant la campagne présidentielle en 2016 aux États-Unis. Monsieur Prigogine finance aussi le groupe Wagner, une entreprise de sécurité qui déploie des mercenaires en Afrique. L'annonce de la suppression de ces comptes vient quelques jours après un sommet Russie-Afrique à Sotchi. Outre la Côte d'Ivoire, la RDC, la Centrafrique, le Cameroun, Madagascar, le Mozambique, le Soudan et la Libye étaient également visés, a précisé le réseau social.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, la Chambre des représentants du Congrès aux mains des démocrates doit se prononcer aujourd'hui sur une résolution qui donne un cadre formel aux investigations en cours sur l'affaire ukrainienne et autorise l'organisation d'auditions publiques après 5 semaines d'interrogatoire à huis clos. Le point avec Eric Malinakiza.
Grâce à ce texte, les Américains vont pouvoir entendre en direct comment le président abusait de ses pouvoirs, a tweeté la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi. Outre l'organisation d'auditions publiques, la résolution prévoit d'autoriser les républicains à convoquer leurs propres témoins lors de la phase d'enquête supervisée par la commission du renseignement. Le texte prévoit ensuite le transfert des preuves à la commission judiciaire qui sera chargée de rédiger les articles de mise en accusation du président. À ce stade, la participation l'intervention du président et de ses avocats sera autorisée selon une copie du texte. La défense de Donald Trump pourra ainsi demander de nouveaux témoignages ou des documents, procéder à des contre-interrogatoires et soumettre des objections.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.